Gloire à Dieu. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse prendre certains passages des Écritures ensemble et voir ce que Dieu a à nous dire au sujet de certains aspects de notre vie et de notre vie en Christ. Alors, vous pouvez prendre Hébreux. Voyez-vous, quand on lit l'Épître aux Hébreux, faut comprendre que chaque fois, Dieu a comme objectif de nous transmettre un message. Amen. Et j'aimerais qu'on voie quelque chose, parce qu'aux Épîtres aux Hébreux, si on commence au chapitre 1 et au verset 1, la Bible dit « Après avoir autrefois, à bien des reprises et de bien des manières, parlé aux pères par les prophètes ou à nos pères, Dieu nous a parlé en ces jours qui sont les derniers, par un fils qu'il a constitué héritier de tout et par qui il a fait les mondes. » Et là, en fait, l'auteur aux Hébreux, son but principal, c'est d'exposer le fait que Jésus est Dieu, Dieu lui-même, pas juste un prophète, pas juste un homme bien, mais que c'est Dieu lui-même. Et après, il expose l'œuvre que Christ a fait pour le chrétien. D'accord? Donc, en fait, l'auteur aux Hébreux, qui est l'apôtre Paul, aborde la question sous un angle théologique profond. Qui c'est qui utilise la Nouvelle Bible Second ici? Vous allez voir qu'il y a énormément de parties qui sont en italique. C'est parce qu'en fait, quand c'est des parties en italique comme ça, c'est qu'il fait mention de l'Ancien Testament. Il fait mention à des prophètes, par exemple dans Ésaïe, ou à des psaumes, ou à Deutéronome. Donc c'est vraiment un exposé théologique, vous voyez? Et le but de cet exposé théologique est d'expliquer que déjà au début des temps, excusez-moi, au début des temps, Jésus-Christ était déjà annoncé comme venant sur terre et qu'il allait être Dieu en chair. On l'a vu dans le Rhapsody aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on voie quelques aspects de cela. Donc, il commence par comparer Jésus aux anges, au ministère angélique. Ok? Regardons ce qui est écrit. Verset 4. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité un nom plus remarquable que le leur. Auquel les anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, moi, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. Donc là, vous voyez qu'il expose et qu'il fait référence à des écrits de l'Ancien Testament. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle Épître aux Hébreux. Vous avez marqué la différence avec les autres épîtres aux Colossiens où il dit « aux chrétiens de Colosse » ou par exemple à Éphésiens « aux chrétiens d'Éphèse ». C'est pour ça qu'on les appelle Éphésiens. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de l'appeler Hébreux celui-là? Parce que vraisemblablement, vu qu'il fait référence à des textes hébreux, il était adressé à des Hébreux. D'accord? Ça fait du sens, hein? Mais après, tout enfant de Dieu peut grandir. Mais regardez le verset 8, ça c'est merveilleux. Mais pour le Fils, donc pour le Fils il a dit, « Ton trône, ô Dieu, est établi pour toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. » Donc là il dit que le Fils est appelé ô Dieu. Vous voyez, ô Dieu, ton trône est établi pour toujours. Donc qui est ce ô Dieu? Dieu c'est qui? C'est Dieu. Et là l'auteur aux Hébreux nous dit que ce verset-là concerne Christ. Donc il est en train de dire que Christ est Dieu. Vous suivez jusqu'ici? Logique, n'est-ce pas? Mais chaque fois, là, il ouvre au chapitre, parce qu'il continue, il va encore et encore et encore, en parlant de ça, justement. Et aussi, au verset 10, regardez, il dit, au sujet du Fils, il dit encore, « C'est toi, Seigneur, qui as fondé la terre au commencement, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. » Donc Jésus est aussi le Saint-Esprit. Qui c'est qui a déployé l'œuvre de Dieu, où l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux, se mouvait au-dessus des eaux? C'est l'Esprit de Dieu. Et quand Dieu a parlé, l'Esprit de Dieu a agi et a créé. Et là, il nous dit que c'est Jésus-Christ, c'est l'Esprit. C'est pour ça que Jésus a dit, je ne vous laisse pas seul, je viens à vous. J'enverrai mon Esprit. Alléluia, c'est merveilleux. Hein? Mais j'ai qu'on voit quelque chose d'assez merveilleux dans Hébreux 3, encore une fois, où il fait la comparaison entre Jésus et Moïse cette fois. Parce que Moïse était le grand prophète des Hébreux. N'est-ce pas? Et donc, il fait la comparaison en disant, aussi frère saint, qui avait part à un appel céleste, vous pouvez dire j'ai part à un appel céleste, dites-le. J'ai part à un appel céleste. Là, il dit, considérez Jésus, celui que nous reconnaissons publiquement comme apôtre et grand prêtre. Waouh. Il a été digne de la confiance de celui qui l'a nommé, comme Moïse l'a été dans toute sa maison. En effet, il, donc Jésus, a été jugé digne d'une gloire plus grande que celle de Moïse, dans la mesure où celui qui bâtit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Donc là, il dit, Moïse, il a géré une maison que Dieu lui a donnée. Et par maison, il entend un peuple. Il a été jugé digne d'une gloire plus grande que celle de Moïse. Donc il dit Jésus-Christ a eu une gloire supérieure à Moïse. N'est-ce pas? Dans la mesure, et il explique pourquoi, que celui qui bâtit une maison, donc Christ a bâti cette maison, est plus grand que Moïse qui a dirigé cette maison. Ça fait du sens jusqu'ici. Hein. Mais regardez le verset 4 qui prouve une fois de plus que Jésus est bien Dieu. Regardez ce qu'il est dit. Toute maison en effet est bâtie par quelqu'un. Or celui qui a tout bâti, c'est qui? C'est Dieu. Donc Jésus est Dieu. D'accord? Et ça, c'est vraiment le point que l'auteur aux Hébreux, qui est donc l'apôtre Paul, souligne au maximum. Mais j'aimerais qu'on voie quelque chose qu'il nous dit, parce que souvent, on regarde les choses un petit peu rapidement comme ça. Est-ce que vous pouvez aller dans Hébreux 2:9? Verset 9, hein, Hébreux 2:9. Cependant, regardez bien quelque chose. Qu'est-ce que je vous avais dit déjà? Vu qu'on est mercredi, vous pouvez un peu répondre. Qu'est-ce que j'avais dit au sujet de voir? On peut voir avec nos yeux physiques et avec quoi d'autre? Nos yeux spirituels, exact, la foi. On peut voir avec nos yeux de l'intérieur. Regardez ce qu'il est dit au verset 9. Cependant, nous voyons celui qui a été fait un peu inférieur aux anges, Jésus, couronné de gloire et d'honneur. Donc là, il nous dit d'abord que Jésus est supérieur aux anges, et ensuite il nous dit qu'il a des faits inférieurs aux anges. Comment ça se fait? Intéressant ça. Hein, exactement. Parce que juste dans le même contexte, il parle de la grâce de Dieu, à cause de la mort qu'il a souffert. Donc Jésus, quand il a souffert la mort, est devenu inférieur aux anges pour devenir le péché pour nous et payer. Il n'est pas en train de dire que Jésus est inférieur aux anges. Pas du tout. Il est en train de dire que Jésus, dans sa condition de sacrifice pour l'humanité, s'est destitué de toute divinité et qu'il est là, à ce moment-là, inférieur aux anges. C'est merveilleux. Hein, c'est d'ailleurs pour ça que dans la Bible, il dit « j'aurais pu appeler des anges à mon secours ». Ce n'est pas Jésus qui devrait secourir les anges, c'est un problème, vu qu'il est plus puissant. Oh, gloire à Dieu. Dites « je suis prospère à tous égards ». Mais j'aimerais regardez, il dit quelque chose d'intéressant. « Cependant, nous voyons celui qui a été fait un peu inférieur aux anges, Jésus, et nous le voyons comment ? Couronné de gloire et d'honneur. » Maintenant, j'aimerais que vous voyez quelque chose. Parce qu'il a bien dit « nous voyons ». Dites « je vois ». Donc, nous voyons Jésus couronné de gloire et d'honneur. Il dit « nous voyons Jésus couronné de gloire et d'honneur ». Il n'a pas dit « nous pensons » ou « nous espérons ». Il a dit « nous le voyons ». Pourtant, l'apôtre Paul lui-même, qui a écrit cette épître, lui-même n'a jamais vu Jésus ressuscité. Lui-même n'a jamais vu même Jésus glorifié, à ce qu'on sache. Ni crucifié, soit dit en passant. Donc comment est-ce que l'apôtre peut dire « je », donc nous, mais il se met dedans, « nous voyons Jésus glorifié, couronné de gloire et d'honneur ». Parce qu'on le voit avec notre cœur, on le voit avec notre esprit, avec notre intelligence, avec notre foi, avec notre pensée. Vous êtes là? Nous voyons Jésus couronné de gloire et d'honneur. Et nous devons apprendre à être conscients de cela. Parce qu'on doit voir Jésus-Christ couronné de gloire et d'honneur dans notre vie. On doit le voir couronné de gloire et d'honneur dans la vie des autres. On doit le voir, le visualiser couronné de gloire et d'honneur dans nos finances, dans notre santé, dans notre église, dans notre pays, dans notre gouvernement. Et c'est là qu'on commence à manifester qui est Christ dans la vie des gens. Parce que Christ est couronné de gloire et d'honneur, c'est un fait. Mais ça prend un effort de notre part de marcher par la foi et de le voir. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous arrivez à voir avec vos yeux physiques? Est-ce que c'est tout ce qui existe, ce que vous voyez avec vos yeux physiques? Non, mille fois non. Il y a beaucoup plus qui existe. Beaucoup plus. Allez dans Josué, nous allons voir quelque chose de merveilleux. Josué, c'est juste après Deutéronome. Gloire à Dieu. Donnez-moi une seconde. « prenez Josué. Le verset 20, chapitre 2, verset 24. Ils dirent à Josué, à coup sûr, le Seigneur nous a livré tout le pays. Tous les habitants du pays défaillent devant nous. Josué 2, 24. Vous l'avez? Donc là, on voit quelque chose d'absolument fantastique. Jésus-Christ, qui était à l'époque, on l'appelait Dieu le Père, n'est-ce pas? Veut que les enfants d'Israël prennent une ville qui s'appelle Jéricho. Cette ville Jéricho était tellement bien muraillée, la muraille était tellement spectaculaire que des gens vivaient à l'intérieur de la muraille. Ce qui veut dire qu'elle était épaisse d'au moins 15 mètres pour que les gens puissent vivre dedans confortablement. Et ça c'est intéressant parce que on regarde les choses assez vite fait, mais à l'époque la couleur écarlate était assez coûteuse à faire, comme le violet. Et là, la Bible dit qu'au verset 21, elle, donc la dame qui vivait dans la muraille, justement, attacha un cordon écarlate à la fenêtre de la muraille, donc la fenêtre de sa maison. Donc ce qui veut dire que les gens qui vivaient dans la muraille étaient assez aisés. C'est ce qu'on peut déduire de ça. Ce qui veut dire que vivre dans la muraille n'était pas un truc de pauvre. Ce qui veut dire que la muraille était vraiment, vraiment grande et que des gens riches puissent vivre dedans. Elle était spectaculaire, n'est-ce pas ? On comprend que la muraille était extrêmement haute et très, très puissante. Donc Dieu avait prévu que les gens du pays laissent cette ville pour les enfants d'Israël, n'est-ce pas? Maintenant, j'aimerais qu'on voie quelque chose. La Bible dit, écoutez bien, regardez ce qu'ils disent au verset 24. Ils dirent à Josué, à coup sûr, le Seigneur nous a livré tout le pays. Les habitants du pays défaillent, vous voyez ça, hein, défaillent devant nous. Vous êtes là jusqu'ici? Ok, parfait. Maintenant, j'aimerais qu'on voie ce que le Seigneur dit à Josué avant ça. On l'a déjà vu, hein. Josué 1, verset 8. Gloire à Dieu. Et donc là, imaginez que le Seigneur vient de dire, tu méditeras sur la parole de Dieu, jour et nuit. Allons dans Josué chapitre 6, verset 1 et 2. Mais lisons d'abord le verset 1, juste pour donner le contexte. Donc là, ils arrivent, les espions sont allés voir Jéricho. Israël arrive devant Jéricho. Verset 1. Jéricho était complètement fermé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. Une ville imprenable. Imaginez que vous vous trouvez devant une situation pareille. Dieu vous a confié de prendre une ville entière qui est imprenable. Au niveau compréhension et perception humaine des sens et des circonstances. C'est une situation impossible. Regardez ce que la Bible dit au verset 2. Le Seigneur dit à Josué, regarde, dites regarde. Je t'ai livré Jéricho, son roi et les vaillants guerriers. Pourquoi est-ce que le Seigneur dit regarde? Alors que devant lui, s'il regarde avec ses yeux physiques, il y a juste une ville imprenable. Mais derrière, le Seigneur vient et dit, ne regarde pas à cette ville imprenable, regarde à ma parole. Ma parole dit, je t'ai livré Jéricho, son roi, les vaillants guerriers. Quand vous regardez avec les yeux de l'esprit, c'est là que vous devenez le succès que Dieu a prévu pour vous. Qu'est-ce que vous voyez avec vos yeux de l'esprit? Est-ce que vous voyez une ville imprenable ou est-ce que vous voyez la parole de Dieu qui dit, je te l'ai livré? Notez qu'il n'a pas dit, je vais te la livrer. Hein. Vous voyez ce qu'il a dit? Il a dit, je te l'ai livré. Donc, en ce qui concerne Dieu, c'était réglé. Complètement réglé. En ce qui concerne Dieu, c'était fini, terminé, tout bon. Rien à rajouter, rien à enlever. Donc, on comprend que Dieu n'était pas l'élément changeant dans cette situation. Dieu n'était pas le facteur changeant. Vous comprenez ? Dieu n'était pas le facteur qui déterminait la victoire de Josué ou pas. Josué était ce facteur-là. Et vous êtes le facteur qui détermine si vous marchez dans la victoire que Dieu a pour vous ou pas. Dieu n'est plus un facteur, dès le stade qu'il est un facteur, on va dire, indivisible. Le seul facteur modifiable, c'est nous. Dieu est un facteur constant. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Ça implique d'être fié à la parole de Dieu qui, elle, va construire une image en nous. Et après, on peut regarder cette image et agir en conséquence. Mais c'est pour ça que vous devez être dans la parole énormément. Énormément, constamment. Sans arrêt dans la parole de Dieu. Afin de marcher dans cette victoire. Donc, quand on contemple avec les yeux de la foi, comment est-ce qu'on fait ça? On doit, vous savez, il est très facile d'avoir une image en nous. Dieu nous a créés avec cette capacité. Vous avez lu le livre sur le renouvellement de l'intelligence? Lisez-le. Donc, je vais vous montrer à quel point c'est facile de mettre une image dans sa tête. Et les gens le font constamment. C'est juste qu'ils n'ont pas la discipline de le faire avec Christ. Vous voyez ce que c'est l'inquiétude? C'est exactement ça. L'inquiétude est une image qui n'existe pas pour l'instant, mais qui est le résultat d'informations qu'on a reçues, et cela crée une image à l'intérieur de nous, et on agit en conséquence. C'est ça l'inquiétude. N'est-ce pas? La foi, c'est la même chose. On laisse la parole de Dieu construire une image en nous, et on agit en conséquence, après l'avoir vue. L'inquiétude va faire que les gens vont commencer à se voir dans des éléments et des événements qui ne sont pas encore réels pour eux, ou qui ne sont pas plutôt pas physiquement réels. C'est pour ça que Jésus-Christ n'a dit « ne vous inquiétez de rien ». Pourquoi est-ce qu'il a dit une chose pareille? Parce qu'il savait très bien que l'inquiétude produirait les mêmes résultats que la foi. Si une personne marche dans l'inquiétude, elle va matérialiser le sujet de son inquiétude. Si une personne marche dans la foi, elle va matérialiser le sujet de sa foi. Simple. L'inquiétude est la manière du diable de vous faire marcher dans ce que lui il veut pour vous et non pas dans ce que Dieu veut pour vous. L'inquiétude est l'opposé, ou plutôt l'inquiétude est la méditation négative de ce que Dieu dit, ou de ce que le diable dit, excusez-moi. Donc l'inquiétude c'est le même fonctionnement finalement que la méditation de la parole de Dieu. La parole de Dieu doit créer cette image en vous. Vous voyez? C'est comme ça que ça fonctionne dans la parole de Dieu. Et vous aurez une marge de victoire uniquement. Et vous savez, tout ce que vous faites aujourd'hui, c'est le résultat d'une image que vous avez de vous ou du monde ou des autres. Tout. Absolument toute chose. Ok. Si vous vous engueulez souvent avec quelqu'un, soit vous vous voyez comme une personne colérique, soit vous voyez la personne avec peu de respect, soit vous voyez la relation comme non importante, soit vous ne voyez pas d'issue, soit vous voyez... Mais il y a quelque chose qui fait que vous voyez ça. Si vous êtes pauvre, c'est que vous vous voyez pauvre. Aucun doute. Vous savez, et ça crée une image à l'intérieur de nous. Ça crée une image. Je parlais avec des gens. Et vous savez, on est enfant de Dieu. Oui ou non? On est enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est riche. N'est-ce pas? Riche, et je parle d'argent là, de cash. Dieu n'a jamais prévu qu'on soit pauvre, jamais, jamais. Et les gens, ils lisent dans la parole de Dieu, « Je suis prospère à tous égards. » Ok, nice. Mais derrière, je connais des gens qui font ça, hein. C'est pas un reproche si vous le faites, hein, gloire à Dieu, mais qui vont aller en France faire leurs courses pour payer moins cher. Ils vont faire leurs courses en France pour payer moins cher. Pourquoi? Parce qu'ils se voient pauvres. Imaginez. Pour ceux qui me connaissent, est-ce que moi je vais aller faire mes courses en France, vous pensez, pour payer moins cher? Hein? De quoi? Parce que c'est, elle me connaît assez pour savoir que c'est exclu que je me vois comme ça. Vous voyez? Regardez, Christ vous a rendu glorieux, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez comme glorifié? Mais à quel point ça influence vos actions? À quel point? Parce que c'est facile de se voir, de dire, regardez, on va voir un truc assez intéressant, Jacques, prenez Jacques, chapitre 1 à partir du verset 16 je pense, je ne suis pas sûr, il faut que je voie, Jacques 1, alors vraiment pas, c'est à partir du verset 22. Jacques 1, verset 22. Regardez, comment est-ce que vous vous voyez? Est-ce que vous vous voyez comme l'enfant de Dieu? Et vous savez, ça doit s'appliquer dans tous les domaines de vie. Hein. Et quand je dis ces choses, ne croyez pas que c'est parce que je sais votre vie intime. Hein. C'est juste des exemples, d'accord? Donc là, je vous dis, cette perception de votre excellence se manifeste dans tous les domaines de votre vie. Regardez, il y a des gens qui vivent dans un environnement sale. Littéralement, quand j'entends sale, je veux dire sale. Un appartement qui n'est pas rangé, vous voyez, un appartement qui n'est pas nettoyé. Pourquoi est-ce qu'un enfant de Dieu peut vivre comme ça? Parce qu'il ne se voit pas comme enfant de Dieu à ce niveau-là. Il peut, dans d'autres domaines, gloire à Dieu, il se voit comme enfant de Dieu. C'est pour ça qu'il, par exemple, il vient à l'église, c'est pour ça qu'il prie, c'est pour ça qu'il parle en langue. Mais derrière, sur ce point-là, ils doivent continuer à se voir comme enfant de Dieu, se comporter comme un roi, se comporter comme une reine. Vous voyez, c'est une manière d'honorer Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, comme on l'a vu au début, voyez Jésus couronné de gloire et d'honneur. On doit le voir nous-mêmes, on doit le voir, le visualiser dans notre vie comme tel. J'aime bien dire aux gens, si Jésus devait venir chez toi demain, ou maintenant, disons maintenant, parce que vous avez le temps d'ici de maintenant nettoyer, maintenant, si Jésus veut venir dans votre appart, dans votre voiture, maintenant, qu'en est-il? Il y a des gens qui n'arrivent pas à visualiser ça, ils vont me dire, oh ouais, mais Jésus, il m'aime comme je suis. Ok, si Pasteur Chris devait venir chez vous demain, là, tout d'un coup, ou le... Et vous voyez, c'est ça, parce que si je disais, si le président des États-Unis, bon, c'est pas le bon aujourd'hui, parce qu'il confondrait le pays, prenons un autre, excuse-moi. Si le président de la Suisse ou le Conseil fédéral dans son ensemble venait chez vous, ne me dites pas que vous nettoyeriez pas de fond en comble. C'est faux. Tout le monde le ferait. Si le Conseil fédéral faisait l'honneur de tous se déplacer pour venir chez vous. Mais derrière, ils vont dire, ouais, mais c'est Jésus, c'est bon, il m'aime comme je suis. Oui, justement, il t'aime comme t'es, mais il t'aime trop pour pas te changer. Vous voyez, il veut qu'on change et qu'on soit glorifié. Amen. Mais regardez ce qu'il est écrit. Oh, j'aime tellement ça. Jacques 1, 22. Vous l'avez trouvé? Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Oh oh! Et après, il précise ce que ça fait de juste écouter la parole de Dieu sans la mettre en pratique. C'est s'abuser soi-même. S'abuser soi-même. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a la puissance de créer en vous quelque chose de beau. Et si vous n'en jouissez pas, vous vous abusez vous-même. Imaginons. Personne n'a d'enfant à part mon papa ici. Alors, imaginons que vous ayez un enfant, que vous pourriez lui payer des études merveilleuses, mais vous refusez obstinément de le faire, sans vraiment de raison, juste comme ça. Ne seriez-vous pas accusé d'abuser votre enfant? Ou imaginons pire, vous ne lui donnez pas à manger. Vous n'avez pas envie. Non, ça demande trop d'efforts. Non, non. Mais je visualise, Seigneur. Cette... Vous voyez? Mais j'ai lu une recette de cuisine. Génial. Donner à manger. Vous voyez? Ce serait de l'abus d'enfant, on est d'accord, de ne pas donner à manger à son enfant, n'est-ce pas? Eh bien là, vous vous abusez vous-même de ne pas vous donner à manger de la parole de Dieu et de la méditer et de la mettre en pratique. Regardez. 23. En effet. Oh, donc là, il va expliquer ce qu'il vient de dire. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique. Donc là, vous êtes là ici à écouter la parole. Est-ce que vous la mettez en pratique? Là, je viens de vous enseigner de comment voir avec les yeux de votre cœur. Est-ce que vous allez mettre ça en pratique? Est-ce que vous allez rentrer et voir les gens que vous voulez sauver, que vous voulez amener à Christ, venir à Christ? Est-ce que vous allez voir Jésus glorifié dans votre maison, dans votre corps, dans vos finances, dans tous les aspects de votre vie? Il dit en effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, écoutez bien, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Donc ça, c'est comique. Imaginez un homme. Imaginez... Ok, ça c'est un chouette exemple, vous êtes prêts? Imaginez un homme comme moi, blanc, suisse, avec des cheveux bouclés. Bon là, ils sont courts, donc vous ne voyez pas, mais ils sont très bouclés mes cheveux. Encore plus que les tiens. Ils sont ultra bouclés mes cheveux. On dirait pas, hein? Je cache bien mon jeu. Hein? J'en ai en plus parce que j'avais les cheveux longs à l'époque. Donc... mais Dieu m'a interdit de vous les montrer. Comme par hasard. Et donc, je me regarde dans le miroir. Je fais, ok. Je suis comme ça aujourd'hui. Et je vais au magasin et j'oublie comment je suis. Donc j'oublie que je suis blanc, j'oublie que je suis un homme et j'oublie que je suis avec des cheveux courts qui nécessitent un soin spécifique. Donc j'arrive au magasin, je fais bonjour. J'aimerais des crèmes hydratantes pour les peaux africaines. Okay. J'aimerais du rouge à lèvres. Alors surtout, j'ai vraiment besoin, vous savez, ces pennes qui mettent les frères Renoir là, dans les cheveux. J'ai absolument besoin de ça parce que vu mes cheveux crépus, il faut vraiment que j'aille ça parce que c'est stylé. J'ai les cheveux, j'ai une super méga touffe. C'est incohérent, on est d'accord? C'est pas qui je suis. Et pourtant, c'est exactement ça qui dit qu'on regarde dans la parole de Dieu. Oh, Jésus-Christ glorifié dans ma vie. Alléluia, Jésus-Christ est glorifié. Ça, c'est la vraie chose, c'est le vrai vous. J'ai cité un verset, mais. Ok, il y a une personne qui pourra se sentir concernée par ce verset, mais c'est vraiment l'Esprit de Dieu. Ok, donc heureusement qu'on est beaucoup, enfin qu'on est beaucoup, qu'on n'est pas juste deux ou trois, d'accord? La Bible dit, ne soyez pas enivrés de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. C'est le vrai vous, ça. Le vrai vous. Vous êtes remplis du Saint-Esprit. Enfin, vous êtes un avec le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 6, 17 dit, celui qui se joint au Seigneur est avec lui, un seul esprit. Et donc vous voyez? Ouais, c'était pas. Juste rester dans ton esprit, exactement. Sans te remplir. Alors, rempli du Saint-Esprit, ça veut dire dans la tête et dans le corps. Ouais. Le temple, c'est qu'il est dans ton esprit. Et maintenant, le Seigneur nous dit, sois rempli du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire qu'il y a une différence entre avoir le Saint-Esprit qui vit dans notre esprit, n'est-ce pas? Et d'avoir le Saint-Esprit qui coule dans notre corps et dans notre tête. On pourrait dire ça, en quelque sorte. C'est pas vraiment la chair, le terme, c'est pas le bon terme. Mais je vois ce que tu veux dire. Ne pas marcher par notre vieille nature. Exactement. Parce que la chair est déjà morte, donc on ne peut pas marcher par la chair en soi. Mais on peut marcher par notre pensée non renouvelée. Parce que, regardez, c'est comme un ordinateur. Et un ordinateur, il a une mémoire. Il a une manière de fonctionner. Vous connaissez un petit peu en informatique ou je vais juste en surface? Surface, ok. Fatih, Math Space, là, je vois. Computer Space. Ok, non, je vais faire informatique, mais simple. Imaginez, vous vous rappelez des iPods à l'époque? Tu te rappelles les iPods, hein, Sylvain? Les machins avec les trucs qu'on devait tourner, là. C'était vraiment l'horreur, ce truc. Alors, j'achète l'iPod de Loris. Et dessus, il y a du gros rap français. N'est-ce pas, Loris? Il m'a dit oui. Il y a du gros rap français. Il appartient à qui, l'iPod, maintenant? Bah non, je l'ai acheté à Loris. Pas de souci. Non, non, je l'ai acheté à Loris. Loris avait un iPod et il me l'a vendu à moi. Il appartient à qui maintenant l'iPod? À Joachim, on est d'accord. Est-ce que Joachim écoute du bon rap français? Oui, c'est tellement mon genre. Donc, ça veut dire que l'iPod a changé de propriétaire. Il y a mon scellé dessus, mais il a encore des vieux fichiers qu'on doit renouveler. C'est la même chose avec l'enfant de Dieu. Dieu a mis son scellé, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 1, verset 13 dit qu'on a été scellé par le Saint-Esprit, qui est l'art de l'héritage. Mais derrière, on doit renouveler notre manière de voir. Et donc le problème, c'est que l'enfant de Dieu, qui voit la parole de Dieu, c'est-à-dire le vrai lui, et quand je dis le vrai lui, ce n'est pas le vrai lui qui est le pauvre petite personne qui passe à côté de ce que Dieu a, hein. C'est le vrai lui glorifié, en bonne santé, puissant, prospère. Et ensuite, il se voit, il fait génial. J'ai entendu Joachim a dit, oh, Joachim a dit que je suis prospère. Vite, allons acheter de la viande la moins chère possible. Celle qui va périmer demain, puis on la mange ce soir. Vu qu'elle périme demain, elle est à 40%, ouais. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui se réjouissent de ça en disant waouh, moi je pense que c'est Dieu qui m'a donné ce 40% de viande. Non! Gloire à Dieu pour ça. On peut rendre gloire à Dieu pour ça. Mais Dieu n'est pas un rat. Dieu est très riche. Très riche. Dieu n'est pas un rat comme ça. D'accord? Comme si Dieu était à 4 balles près. Vous vous rendez compte? Dieu m'a envoyé. Dieu est tellement radin qu'au lieu de me donner 4 francs de plus pour que je m'achète un bon steak, il m'a envoyé acheter les steaks qui allaient périmer ce soir. Vraiment, quoi. Alors, il y a toute l'église qui est là. Amen, amen. Oh, merci, pasteur, pour ta transparence. Vous voyez un petit peu l'idée? Quelle horreur de penser Dieu comme ça. Quelle horreur. Mais oui, Dieu peut faire que surnaturellement, on paye beaucoup moins pour quelque chose qu'on aurait dû payer parce que la Bible dit que parce qu'il y a un aspect biblique là-dedans. Parce que la Bible dit que la richesse du pécheur est mise en place pour le juste. Donc, en fait, ils sont censés. Leur richesse est censée venir vers nous. Amen. Donc, il y a un aspect juste là-dedans, mais pas pour. Là, je parle de l'aspect, l'esprit de radin pour 4 balles. Vous voyez, moi, par exemple, j'ai trouvé une méthode pour payer mes billets en avion moins cher. Je pars depuis Turin, à la place de partir depuis Genève. Et j'économise des fois jusqu'à 4 000 francs. Vous imaginez? Alors là, c'est clair, quand je vois ça, je suis là, ah ouais, les Rhapsodies, ils vont être contents, hein quand je mets la différence là-dedans. Amen. Donc, vous voyez, c'est ça, on a le droit. Moi, je parle de l'aspect vraiment radin où Dieu serait là. pour 4 balles. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur, j'ai économisé 4 francs. Vous croyez que Dieu est comment? Vous voyez, Dieu vous aime. Regardez, il dit, qui après, verset 24, qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt comment il était. Regardez qu'il dit aussitôt. Combien de gens c'est comme ça? Ils viennent à l'église et aussitôt ils partent, ils oublient. Joachim, je ne sais plus de ce que tu as parlé la semaine passée. Oh, mes chers amis. Est-ce que vous vous rappelez même ce que j'ai parlé dimanche? De quoi j'ai parlé dimanche, vous vous en souvenez? Bon, tu n'étais pas là. Merci. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vient à l'église et qu'on est construit. Vous savez, Pasteur Chris, il est encore plus exigeant ça. Hein. Il va nous faire pendant la série You Love World, saison 3, phase 2, jour 6. Qu'est-ce qu'on a parlé? On va vite regarder nos notes. On est là. Parler de ça. Et ça, c'est aussi le rôle du pasteur, d'être proche du Saint-Esprit pour que cette puissance opère. Mais c'est aussi le rôle de celui qui écoute. À quel point vous prenez au sérieux qu'on est dans la parole de Dieu? Vous savez que chaque fois que je vous parle, ou chaque fois que vous parlez entre vous de la parole de Dieu, c'est une prophétie qui est donnée avec laquelle vous pouvez combattre le bon combat. Vous vous rappelez que j'ai dit ça, hein? Je me rappelle de tous les enseignements que je vous donne. Qui c'est qui se rappelle des enseignements sur les trois types de paroles? Hein? Réma, l'alia et l'eau. Merci. Qu'est-ce qui est toujours grandissant? La gloire et le ministère.
D'accord.
Et vous, est-ce que vous avez internalisé ces vérités? Hein? Un petit peu, j'ai commencé. C'est bien, commencez avec ça. Mais Christ en vous, c'est une espérance de gloire. La parole de Dieu, elle vous change vraiment. Dieu vous change, Dieu vous aime, sa parole. Dieu, la Bible dit qu'il a envoyé sa parole et qu'il nous a guéris. Vous vous rendez compte que sa parole, elle est guérison. Alors même que je vous parle maintenant. Vous voyez, ok, vous voulez, quelle heure il est, s'il vous plaît? Ok. Vous vous rendez compte que maintenant, si je prenais quelqu'un au hasard et que je prophétisais sur la personne, la Bible dit que la prophétie est un signe pour les croyants, n'est-ce pas? 1 Corinthiens chapitre 14. Donc je prophétise sur quelqu'un. Pour vous, c'est un signe que la puissance de Dieu est là. Par exemple, quand Pasteur Chris va commencer à prier pour les malades là, vendredi, samedi, dimanche, où je compte sur vous d'être là, il va commencer à prier. Il va dire « Soyez guéris ». Et là, il va dire un truc peut-être, par exemple, « Les problèmes de dos sont guéris ». Juste ça, c'est un témoignage pour vous que la puissance de Dieu est à l'œuvre et que vous pouvez recevoir une guérison pour tout et n'importe quoi, instantanément. Regardez, si maintenant je commence à prophétiser sur Fatih, par exemple, c'est une parole qui va dans sa vie et vous, c'est un signe que la parole de Dieu est là, c'est un signe que l'Esprit de Dieu est là, n'est-ce pas? L'Esprit de Dieu est ici, n'est-ce pas? Pas plus qu'ailleurs, je vous dis. Seigneur, que ta présence soit avec nous ce matin. Qu'elle descende, vous vous rendez compte? Qu'elle descende en nous. Heureusement que les gens disent ça par ignorance, hein. Parce que sinon ce serait littéralement un blasphème. Hein. C'est que c'est un blasphème. Hein. C'est insulter Christ et son œuvre. Ce serait un blasphème sinon. Hein. Ah oui. Non, le blasphème du Saint-Esprit c'est autre chose. Le blasphème du Saint-Esprit c'est refuser le ministère du Saint-Esprit pour devenir un Christ. Donc, qu'en est-il? Quel genre de vie vous voulez avoir? Vous voulez avoir une vie de victoire? Pourquoi est-ce que je pousse ces gens de venir à l'église? C'est pas pour que je puisse remplir un petit rapport, on était 25, ouais. D'accord? Parce qu'il y a des bonnes offrandes, plus on est... Non! Ok, donc vous laissez cette parole de Dieu, vous voulez voir cette parole. Est-ce que vous vous voyez prospère? On doit travailler sur ça. On doit travailler sur ça, sincèrement. C'est pour ça qu'on vient à l'église. Et il y a des messages où... Regardez, c'est tellement faux parce que c'est des messages dangereux pour le corps de Christ. Qui que tu sois, Dieu t'aime. Ouais, génial, c'est vrai. Mais on dit ça à un non-croyant, pas un croyant. Un croyant, c'est vu que Dieu t'aime, progresse. Arrête de toujours tomber. Il faut arrêter avec ce « je tombe, je me relève ». C'est un des pires mensonges de l'Église. Quand je tombe, il me relève. T'es pas censé tomber, hein? On n'est pas censé. Après, beaucoup de chrétiens le font parce qu'ils ont cette image d'eux qui tombent. Ils ont cette image que c'est normal de tomber, de se relever, de tomber, de se relever, de se tomber, de se relever. Non, c'est pas normal. Vous Vous savez que ce verset, exact, vous voulez savoir le plus drôle? Ça parle même pas de tomber dans le péché. Ça parle de tomber dans un piège du diable, ou plutôt du méchant spécifiquement. Donc il dit, si le juste tombe dans un piège, il va se relever. Ça parle pas de tomber dans le péché. Les gens, ils en ont fait toute une théologie, il y a même des livres écrits sur ça. Alors, bien sûr. Alors qu'en réalité, il parle de tomber dans un piège tendu par le méchant. Et pas le diable, le méchant, une personne méchante, genre qui tend un piège et, contre une personne. Et nous, on en a fait quoi? On en a fait une théologie entière en disant, si je tombe, Dieu me relève. Déjà, c'est, il se relève parce qu'il est juste, justement. Ouais. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais le piège, c'est pas le péché, c'est genre un vrai piège. Là, il parle littéralement d'un piège. Alors, je pense que c'est même beaucoup plus simple. C'est par exemple quelqu'un. Enfin, littéralement, ça parle de faire trébucher quelqu'un. Et c'est pour ça qu'il dit si le juste tombe parce qu'il trébuche à cause d'un piège qui lui a été tendu, il va se relever. Parce qu'il est juste, c'est pas genre. S'il tombe dans le péché. Vous voyez? Et on en a fait toute une théologie. Et les églises, 95% des pasteurs utilisent ce verset, vous savez ça. Hein, vous savez ça. Hein, vraiment. Donc j'aimerais que vous ayez une vision de vous et que vous marchiez selon cette vision. Que vous agissiez selon cette vision. Que vous marchiez, c'est-à-dire que vous. Que vos actes reflètent cette vision de Christ. Parce que quoi que ce soit, vous avez une vision qui définit votre manière de marcher aujourd'hui. Votre manière de vivre aujourd'hui est définie par une vision. C'est sûr. Amen. Donc cette vision, elle doit être faite par la parole de Dieu. Donc soyez là et dimanche et le dimanche suivant, les quatre types de justice. Aïe, 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 aïe.